À l'occasion du Dimanche de la Santé célébré le dimanche 12 février, nous sommes très heureux de faire une émission consacrée au monde de la santé, à la pastorale de la santé. Et nous avons aujourd'hui autour de la table, ici dans nos studios, trois invités. Catherine Noroy, vous êtes membre du service diocésain de la pastorale de la santé pour le Pays Basque. Vous êtes avec votre responsable, puisque nous sommes avec le docteur Marc Renoux, qui est responsable du service diocésain pour la pastorale de la santé en Pays Basque. Et nous sommes avec l'abbé Philippe Aristoy, qui est le prêtre qui accompagne.
Voilà, qui accompagne le service.
Voilà, et vous êtes par ailleurs aumônier à l'hôpital de Bayonne et aumônier à l'HBB, l'hospitalité basco-béarnaise, dont vous connaissez bien aussi toutes ces réalités du monde de la santé en Pays Basque et plus largement dans le diocèse. Alors, dans cette émission qui comprendra trois parties, nous finirons en disant ce qu'est le Dimanche de la Santé et comment il va être célébré, quelles sont les propositions. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la pastorale de la santé, comment elle s'organise ici, quels sont les différents acteurs, quelles sont les fragilités, mais aussi les richesses de la pastorale de la santé en Pays Basque. Et pour commencer, nous allons faire un peu un état des lieux du monde de la santé. On a beaucoup entendu parler du mal-être des soignants avec la crise de l'hôpital. Mais le monde de la santé, c'est à la fois les malades, mais c'est aussi tous les accompagnants. Alors je crois, Catherine Noroy, que vous souhaitez nous partager une enquête qui a été publiée très récemment.
Voilà, j'ai vu une enquête qui a été faite par Vie quotidienne et santé et qui a été publiée par le service statistique des ministères sociaux. Donc dans cette enquête, il montre qu'il y a plus de 7 millions de personnes de plus de 15 ans qui sont en situation de handicap. 9 millions se déclarent aidants d'un proche âgé ou handicapé. Ces aidants, ce sont les parents, conjoints, enfants. Dans les enfants, il faut savoir qu'il y a 500 000 mineurs qui aident un parent malade chez eux. Dans ces aidants, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, un aidant, c'est quelqu'un qui apporte une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Cette aide, elle peut être régulière, c'est-à-dire journalière, elle peut être aussi en fin de semaine pour ceux qui ont des personnes qui les aident dans la semaine, et plus tout le personnel soignant qui s'occupe des malades. Et dans ce personnel soignant, bien entendu, on pense tous aux médecins, infirmières, psychologues, orthophonistes, enfin tous les soignants. Mais je pense qu'il est bon de signaler qu'il y a des personnes qui, dans la discrétion, sont des auxiliaires de vie et qui servent à aider les personnes chez elles, à les maintenir dans leur vie quotidienne et qui, tout doucement, aident les personnes dans leur vie de tous les jours. Et donc, ces personnes-là, il ne faut pas les oublier non plus.
Alors, on a parlé chiffres, mais avant tout, les personnes qui sont malades, les personnes qui souffrent d'un handicap, justement, ce sont des personnes. Il ne faut pas réduire ces personnes à des statistiques.
Voilà, tout à fait. Mais même si on ne les réduit pas à des statistiques, il faut penser qu'elles sont nombreuses. Voilà.
En tout cas, ces chiffres nous disent bien que tout le monde, finalement, un jour ou l'autre, dans sa famille, est confronté à la maladie ou handicap, à la dépendance.
Tout à fait.
Et donc, c'est un peu tout ça qui fait partie du monde de la santé. Alors, docteur Marc Renoux, vous avez fait toute votre carrière dans ce monde de la santé. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire à propos de ce monde de la santé aujourd'hui en préambule ?
À propos de ce monde de la santé, je pense qu'il faut effectivement percevoir son extrême diversité, c'est-à-dire il existe le monde hospitalier, public et privé, qui a été fortement impacté et surmené avec la pandémie de Covid que l'on connaît, et qui a une caractéristique actuelle sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il y a une telle explosion technologique dans le domaine de la biologie, de l'imagerie en particulier, des techniques actuelles, de l'évolution avec l'introduction des robots en chirurgie, que c'est un paradoxe, les médecins, les équipes soignantes peuvent, tellement accaparés par ce monde numérique également, être plus distants vis-à-vis des patients. C'est donc essentiel, dans ce domaine hyper technicisé qu'est l'hôpital, de maintenir une relation très directe avec les patients. À côté de l'hôpital public des grandes polycliniques, il y a également tous les établissements type SSR, services de soins de suite et de réadaptation, qui sont très nombreux dans la région, les centres de rééducation, que ce soit à Cambo, que ce soit à Andaille, à Saint-Jean-de-Luz, à Bayonne. Bien évidemment, il faut rajouter également les EHPAD, dont le nombre est appelé à considérablement croître avec le vieillissement de la population. Et puis enfin, il y a l'autre dimension qui est la médecine libérale de ville, les cabinets de ville, les médecins généralistes qui font des visites à domicile. Et je rejoins pleinement Catherine Denoroy pour que l'on valorise peut-être particulièrement cette année, parce que ce dimanche est annuel, mais vraiment le rôle de ces aidants qui sont très souvent un membre de la famille, qui se dévouent, on peut dire, en permanence auprès de patients et grâce auxquels on arrive, avec le secours de l'HAD, de l'hospitalisation à domicile, à maintenir des patients à domicile. Car la politique de santé veut absolument valoriser le maintien à domicile pour essayer de parvenir, ce qui est le cas actuellement, à des séjours hospitaliers qui sont parfois très nombreux, mais dont la durée a considérablement diminué. Voilà ce que je voulais dire quant au monde de la santé, qui est actif, qui est largement représenté en Côte Basque, et je ne rentre pas dans ce discours très misérabiliste, largement médiatisé, de l'hôpital en crise. Ça fait 50 ans que j'entends que l'hôpital est en crise. L'hôpital va bien, il est en croissance, il est dynamique, merci pour lui.
Ce n'est pas ce que tout le monde pense, c'est quand même.
Ce n'est pas ce que tout le monde pense, mais il va mieux que ce que l'on nous dit. Je crois qu'il faut insister sur sa vigueur. On l'a bien vu en 2020-2021. Il a su faire face d'une façon remarquable à la crise du Covid, à l'inflation de malades en réanimation. Donc, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. J'ai envie de dire que la bouteille est bien à moitié pleine et que l'hôpital va bien et qu'il est sans cesse en progression avec de nouveaux projets. Il y aura des modifications de la tarification. Tout un plan de remaniement des structures hospitalières est en cours et on peut être rempli d'espoir.
Abbé Philippe Aristoy, vous le côtoyez, vous, cet hôpital, vous y êtes souvent?
J'y suis souvent, oui, presque tous les jours.
Alors, vous voyez les personnes malades, mais vous voyez aussi les soignants. Alors, est-ce que vous êtes du même avis que le docteur Renoux?
J'aurais envie d'aller dans son sens, oui, parce que depuis 4-5 ans que je suis quand même bien immergé dans ce monde de la santé, notamment ici sur Bayonne et la Côte Basque, eh bien, je vois les efforts qui sont faits. Alors, certains diront que ce n'est pas suffisant, le fait est. Mais donc au centre hospitalier à Côte Basque, il y a eu, il n'y a pas longtemps, donc, puisque c'est la saison, il y a eu les vœux qui ont été donc donnés par le nouveau directeur, M. Espenel. Et il a souligné, et ça rejoint un petit peu ce que dit Catherine Denoroy, la volonté de l'hôpital volonté de proximité avec les territoires. L'hôpital de Bayonne, comme on dit couramment, c'est le centre hospitalier de la Côte Basque, comme on disait, parce que c'était essentiellement Bayonne-Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, on parle davantage de GHT, Groupement Hospitalier des Territoires. Pour quelle raison? Parce que, eh bien, tout simplement, la force publique, comme je dis, l'hôpital, bien, a pris en charge et est venu un petit peu en aide avec beaucoup de structures privées qui étaient en difficulté. Et j'en propose notamment Saint-Palais qui est en pleine rénovation. Saint-Palais, pour que les populations de l'intérieur du Pays Basque puissent avoir un hôpital de proximité. Actuellement, ils viennent de créer des salles d'imagerie. Ensuite, il y a un centre de dialyse. Donc tout cela sera sur place et il y a de gros investissements qui sont faits sur Saint-Palais. Idem sur Saint-Jean-de-Luz, où il y avait des EHPAD qui étaient vieillissants, c'est vrai, parce que un établissement vieillit. De gros investissements ont été faits et actuellement, l'inauguration a été faite. Il y a Egusquia, il y a Udaskena, qui sont des établissements où on est heureux de rentrer. Je crois que le personnel soignant aussi a des conditions bien meilleures que ce qu'il était. Et je crois qu'il faut le souligner aussi. Alors ça a été dit, il y a eu gros investissements, d'où du coup aussi des problèmes financiers ou autres liés à ça, mais du même coup, il y a une volonté. Et actuellement, ils sont en train de mettre en place le projet d'établissement sur les 4 ans à venir. Et je crois qu'il y a des choses quand même qui bougent et qu'aujourd'hui, sur la côte basque et le Pays basque, nous pouvons dire que nous sommes quand même bien lotis. Alors certes, il y a encore des lits fermés parce qu'il manque de personnel, mais ils sont en train aussi d'essayer de fidéliser le personnel et de faire que le personnel aussi puisse revenir. Si on leur donne de bonnes conditions de travail, le personnel reviendra parce que je crois qu'il y a un esprit et qu'il y a une volonté de travail aussi en commun. Je suis aussi aumônier de Bellara, j'interviens dans différents établissements et il y a de plus en plus de synergies entre le privé et le public, style la cardiologie, qui est un exemple.
Merci à tous. Dans quelques instants, nous allons parler de la pastorale de la santé en Pays Basque. Nous marquons une courte pause.
Toi qui as mal au fond du cœur, dans les blessures du malheur, prends ta misère sur ton dos, prends ta civière et ton fardeau. Lève-toi et marche, Dieu est ton ami. Te donne sans compter, sans voir de fruits dans tes vergers.
Quand l'espérance à bout de bras, apprends à vivre pas à pas. Lève-toi et marche, Dieu.
Personne n'a plongé au cœur des sources d'amitié.
Prends une fleur de ton jardin et va fleurir.
Nous retrouvons nos trois invités, Catherine de Nauroy, le docteur Marc Renoux et l'abbé Philippe Aristoy. Nous parlons du monde de la santé, de la pastorale de la santé à l'occasion de la Journée mondiale des malades qui se déroule chaque année le 11 février en la fête de Notre-Dame de Lourdes. C'est la 31e Journée mondiale des malades et c'est également le dimanche 12 février, le dimanche de la santé. Alors la pastorale de la santé, vous en êtes le responsable, docteur Marc Renoux, c'est quoi ?
La pastorale de la santé, on peut dire qu'elle a, en réalité, elle a deux pôles. Elle doit s'intéresser, ce que nous n'assumons pas suffisamment, aux acteurs de la santé, aux professionnels de santé. Notre priorité, peut-être trop exclusive, s'oriente vers les patients. Elle a deux très grands pôles, les aumôneries hospitalières, des établissements de soins publics et privés. Dans certaines situations, ce sont des prêtres qui sont en charge de l'hôpital public, ce qui est le cas pour le CHCB, l'hôpital de Bayonne, puisque l'abbé Philippe Aristoy en est l'aumônier, mais avec une collaboratrice récemment recrutée qui est une laïque. Il y a donc les établissements à prendre en compte privés qui toutes sont de la responsabilité, sont confiés à la responsabilité d'un prêtre, qui peut très souvent être un prêtre ou le curé de la paroisse, de l'équipe paroissiale, qui peut être un laïc, mais en principe, chaque établissement est doté d'un référent aumônier, encore une fois, religieux, prêtre diocésain ou laïc. Le deuxième pôle qui est essentiel, c'est le service évangélique des malades. Il y a d'ailleurs un article dans la revue Notre Église sur le SEM en Béarn. Le service évangélique des malades qui se propose de venir parler du Seigneur auprès de patients fréquemment très isolés, à domicile, ce dont on parlait en début d'émission, pour les écouter, leur parler, parfois leur amener la feuille paroissiale, leur porter, s'ils le demandent, le corps du Christ, et même, en allant plus loin, les amener à une vie sacramentelle tout à fait personnelle, c'est-à-dire, je veux nommer le sacrement de réconciliation et l'onction des malades, mais le sacrement de la réconciliation, la confession, et l'onction des malades ne peuvent intervenir que s'il y a un cheminement. On ne propose pas de but en blanc l'onction des malades à quelqu'un sans l'amener à la vouloir, à la désirer comme un sacrement de guérison. Voilà les deux pôles principaux, hospitalier et à domicile.
Alors comment vous organisez avec la pastorale de la santé pour couvrir tout le diocèse, le Pays Basque, le Béarn ?
Alors le Béarn a sa propre structure, nous, nous veillons, dans la mesure du possible, on peut toujours faire infiniment mieux, à ce que dans chaque paroisse doit être dotée d'un SEM, d'un service évangélique des malades, avec un responsable, qui est habituellement un laïc, et un prêtre accompagnateur. Donc, avec Catherine notamment, nous avons pris notre bâton de pèlerin, et on est prêt à le reprendre dans les différentes paroisses du Pays Basque, pour susciter l'existence d'un SEM. Parce qu'il arrive parfois que des personnes visitent des malades et que, je vais prendre un terme volontairement un peu outrancier, cela devienne leur chasse gardée. Ils vont voir leur malade, monsieur un tel, madame un tel, qu'ils connaissent depuis longtemps. Il faut que le SEM soit vraiment une structure communautaire, de manière à ce que on soit certain que tel malade soit visité de façon régulière, et si la personne qui le voit d'ordinaire est absente, que quelqu'un d'autre puisse le remplacer. Et quant aux aumôneries d'hôpitaux, elles sont parfaitement structurées et très actives, notamment par les visites systématiques auprès des patients, l'accompagnement spirituel, les sacrements, la célébration de messes célébrées dans les EHPAD et à l'hôpital.
Alors, abbé Philippe Aristoy, vous, comment est organisée un peu l'aumônerie à l'hôpital ?
Eh bien, elle est en renaissance, j'aurais envie de dire, donc en restructuration. On a passé donc des mois et des années un peu difficiles avec la crise Covid, donc immanquablement, ça nous a impacté. Mais on a pu maintenir le service de l'aumônerie. Et comme l'a dit Marc, maintenant nous sommes dans l'équipe donc il y a moi-même en tant que prêtre et Victoire Machicotte qui viennent d'intégrer l'équipe depuis le mois de janvier pour un mi-temps. Moi aussi, j'ai notre mi-temps, puisque l'hôpital public, et ça, il faut le souligner, je pense que beaucoup d'auditeurs n'en ont pas conscience. À chaque fois que j'en parle, tout le monde est étonné, puisque l'hôpital public, eh bien, rémunère des personnes pour le service de l'aumônerie. Voilà. Et c'est une collaboration très étroite entre les directions d'hôpital et les évêchés pour que les services d'aumônerie existent. Et cela, depuis la loi de séparation de l'Église de l'État, depuis 1905, cela a été inscrit et cela fonctionne. Donc, actuellement, nous essayons de voir quel projet mettre en place et comment le réaliser. Je pense que ce qui a été vécu, et de grandes choses ont été vécues au sein de l'hôpital de Bayonne en fonction des différentes périodes, je dirais de décennie en décennie, a déjà vu énormément d'évolutions. Il y a eu des prêtres, des grands aumôniers, comme on disait. Ensuite, il y a eu des laïcs. Je crois que Hélène Trollier a fait un très grand travail pendant plus de 10 ans. Je pense qu'elle a passé plus de 20 ans elle, au service de l'aumônerie, mais 10 ans comme responsable et une grande présence. Et ensuite, malheureusement, est arrivée cette crise Covid qui a bouleversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, eh bien, on essaie de voir comment redémarrer et dans les EHPAD et également dans les différents lieux. Parce que une mission nous a été donnée un petit peu par l'hôpital. Finalement, nous aussi, de veiller à cette proximité. Et tout à l'heure, quand je citais les différents sites, eh bien, on va essayer d'avoir aussi un œil, un petit peu, d'une vigilance pour que sur Saint-Palais, pour que sur Saint-Jean-de-Luz, donc bien sûr Bayonne, mais là, on y est plus présent, mais également, tout à l'heure, j'ai oublié, il y a Saint-Jean-Pied-de-Port aussi, puisque la Fondation Luro et les différents EHPAD ont été aussi rattachés au centre hospitalier Pays Basque.
Vous faites bien de le rajouter, parce qu'on vous entend.
Tout à fait, c'est pour ça que je le dis, parce que je me suis dit autrement, je vais m'attirer les foudres de l'intérieur. Et donc, veillez à ce que bien, le service d'église et de la proposition chrétienne, et puis de l'accompagnement, Marc a parlé bien sûr des sacrements, mais je crois qu'un service d'aumônerie, en premier lieu, est là aussi pour écouter. Pour être à l'écoute de la personne qui est là, à l'écoute de la famille qui est là et qui parfois se trouve désemparée parce que bien un de leurs proches se trouve hospitalisé avec des grandes questions que tout cela peut poser, souvent dans la précipitation ou autre. Eh bien, s'il peut y avoir une oreille attentive, eh bien, on essaiera d'être celle-là. Et puis, je crois aussi d'être très en lien aussi avec, du coup, les paroisses, faire des ponts. Malheureusement, bien souvent, eh bien, chacun fonctionne parce qu'on a la tête dans le guidon, chacun fonctionne de son côté, et on oublie de faire des passerelles, on oublie de signaler eh bien, que telle paroissienne, telle a été hospitalisée, que peut-être une petite visite ferait du bien. Et inversement, lorsque la personne repart en établissement de soins de suite ou lorsqu'elle repart chez elle, eh bien, à nous aussi, à veiller à passer le relais, soit à la paroisse, soit au service évangélique des malades, qu'il y a une équipe sur place.
Alors Catherine de Nauroy, vous faites partie d'un service évangélique des malades ?
Non, moi je non. reste que à la pastorale de la santé. Par contre, comme le disait Marc Renoux, nous aidons à former des structures de services évangéliques des malades parce que très souvent, dans chaque paroisse, il y a des personnes qui vont visiter des malades. Mais tout cela n'est pas structuré, c'est-à-dire ça n'est pas organisé. Donc il y a la bonne volonté de chacun, mais ça n'est pas structuré. Donc nous n'imposons rien, c'est-à-dire que si les paroisses veulent rester comme ça, elles restent comme ça. Mais nous sommes à leur service, si elles veulent devenir un véritable service évangélique des malades, à ce moment-là, nous, on se propose de venir les aider à le structurer, à le monter pour faire quelque chose qui puisse être pérenne dans la paroisse.
Quelles sont les qualités requises pour faire partie du service évangélique des malades dans une paroisse ?
C'est d'abord beaucoup de bon sens, c'est-à-dire de la discrétion, de l'humilité, ne pas arriver en terrain conquis, d'avoir beaucoup d'écoute, écouter les malades, comme vient de le dire l'abbé Aristoï, écouter la famille, parce qu'elle aussi, elle est à accompagner. Voilà, c'est surtout ça.
C'est un service l'écoute. Vraiment rendu au nom de l'Église.
Ah, complètement.
Donc ça veut dire que quand, par exemple, vous êtes dans un établissement, que vous tapez à la porte, vous ne savez pas si la personne qui est derrière est chrétienne ou croyante ou pas.
Du tout.
Donc comment ça se passe ?
Mais là, ce qui se passe, c'est que la personne, on se présente et la personne accepte ou n'accepte pas la visite de celui qui vient de taper à la porte. Voilà. Mais tout le monde sait qui on est. Voilà. Et ça, c'est très important. Mais on n'a pas d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on peut accompagner n'importe quelle personne de n'importe quelle religion et être une oreille attentive. Voilà, on est là pour ça aussi. On ne sélectionne pas.
Il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais pour finir cette partie quand même qu'on parle du sacrement de l'onction des malades. Parce que je crois que ce sacrement, bon, beaucoup, beaucoup l'appellent l'extrême onction encore. Et c'est un très beau sacrement qui n'est pas fait que pour les personnes qui sont en fin de vie ou qui vont mourir sous peu. Abbé Philippe Aristoy.
Alors, il est sûr qu'il reste l'extrême onction lorsque c'est la dernière onction et que l'on sait que la personne va partir. Donc c'est vrai que dans mon ministère, je pense que du fait d'être aumônier au centre hospitalier ou dans des cliniques, voilà, je vis beaucoup de sacrements des malades. Et on insiste beaucoup auprès des familles. Lorsque on est appelé soit par la personne, soit par la famille elle-même, soit par, et ça c'est à souligner, par le personnel soignant. Le personnel soignant, certaines de personnes sont très à l'écoute et voient si éventuellement, eh bien, la présence de l'aumônerie, du prêtre, de la laïque qui accompagne peut être importante pour le soin. Parce que c'est aussi prendre soin, c'est proposer également du spirituel et du chrétien, et donc le sacrement. Le sacrement des malades, qui est un très très beau sacrement. Lorsque j'en témoignais encore hier au cours d'obsèques, on peut vivre des moments très très forts, et que dont on n'imagine pas la portée. Et même pour moi-même, comme tu le disais, lorsque l'on entre dans une chambre, ou lorsqu'on est appelé en réa, en règle générale, on ne sait pas qui on va rencontrer. Alors si on a la chance d'avoir pu discuter un petit peu avec la famille avant, ça éclaircit le chemin. Autrement, c'est sur le moment même. Et alors là, il se vit des choses extraordinaires. Parce que c'est un moment d'apaisement. Voilà. Une fois que la peur a été passée. Parce que pour beaucoup de personnes aussi, ça c'est ancré en nous, je pense que il faut lutter contre, mais c'est comme ça. Il y a encore ces réactions-là. Oh non, non, on ne va pas appeler monsieur l'abbé parce que il n'en est pas encore là. Et puis non, on a presque peur d'accélérer la mort. Or, ce n'est pas du tout ça. Si mort doit arriver, le diagnostic a été posé. Et là, c'est le corps médical qui essaie de voir si on peut encore continuer quelque chose ou alors s'il vaut mieux accompagner en douceur. Et justement, dans l'accompagnement en douceur et souvent auprès des soins palliatifs, c'est pour cela que nous essayons de travailler aussi en lien avec les services de soins palliatifs, eh bien, il y a cet accompagnement qui est un apaisement intérieur. Et il suffit de voir, alors non seulement la personne elle-même, lorsqu'elle l'a demandé, lorsqu'elle est encore en capacité de demander, lorsqu'elle est encore consciente, et c'est là qu'on vit les plus grands moments, et lorsque la famille est autour, lorsqu'elle accepte de rester. Moi, je donne toujours le choix aux personnes, et surtout aux plus jeunes quand ils sont là. Je leur dis, voilà ce qu'est le sacrement des malades. Il s'ancre dans le baptême qu'on a reçu il y a quelques années. On va revivre des mêmes gestes, l'imposition de la main au nom du Seigneur, où on demande à l'Esprit d'apporter sa force et sa paix, que cette paix intérieure vous inonde. Et puis, il y a cette onction avec l'huile des malades. C'est magnifique, une onction, que ce soit au baptême, que ce soit à confirmation, que ce soit une ordination, que ce soit l'huile des malades et la cérémonie de la messe chrismale où ces huiles sont bénies par l'évêque. Il y a des paroles très très fortes qui sont données et que l'on retranscrit. Et à ces moments-là, les personnes qui sont autour de la personne accompagnée, qu'elles soient proches ou loin de l'Église, eh bien, sentent quelque chose. Et les quelques paroles qui sont dites, il n'y a pas de superflu là, il y a de la vérité. Les quelques paroles, elles touchent le cœur. Et je crois que de pouvoir le vivre, alors lorsque les personnes accepte d'être présente autour, même si c'est difficile. Il y a les larmes, il faut pas, voilà, il y a les larmes. On sait que c'est un moment quand même délicat. Eh bien, la personne qui est là, lorsqu'elle voit sa famille avec elle, ben c'est une immense joie et une immense action de grâce. D'ailleurs, ce sont que des actions de grâce à la fin d'une telle cérémonie. Alors après, comme tu l'as dit, ça c'est le sacrement des malades. Eh bien, on peut le recevoir à plusieurs reprises dans sa vie, à des moments d'épreuve. Voilà, des personnes qui vont tout simplement entrer en hôpital pour une intervention chirurgicale ou autre, elles demandent la force du Seigneur pour les accompagner dans ce moment-là, dans ce moment d'épreuve. Et le Seigneur est là, présent, et il se rend présent à travers ce sacrement également. Et puis, bien sûr, bien souvent, il est proposé de le vivre en Église, encore plus largement, avec la communauté chrétienne. Hein, les malades qui, ce jour-là, sont accompagnés dans cette communauté qu'ils rejoignent peu, et bien souvent, c'est lors du dimanche de la santé ou de la journée des malades que ce sacrement est proposé dans les paroisses. Et je crois que là, pour les communautés chrétiennes et pour tous les fidèles, c'est un très très beau témoignage qui est donné.
Et beaucoup de paroisses vont le proposer à l'occasion notamment du dimanche de la santé, le 12 février. Nous marquons une pause et nous retrouvons nos trois invités, l'abbé Aristoy, Catherine Denoroy et docteur Marc Renoux, et nous parlerons du dimanche de la santé du 12 février. Alors, docteur Marc Renoux, ce dimanche 12 février, dans toutes les paroisses, c'est le dimanche de la santé.
C'est le dimanche de la santé. On célèbre deux événements, la santé et l'on peut dire le dimanche des malades. Et dans l'esprit des paroissiens, des chrétiens, les deux sont étroitement associés. Il ne faut pas méconnaître l'aspect santé, c'est-à-dire rendre grâce pour ce qui est bonne santé en nous. Finalement, chacun de nous est à la fois en bonne santé avec des limites et éventuellement des pathologies qui sont bien intégrées à sa vie courante. Il reste que l'on peut remercier le Seigneur d'être vivant aujourd'hui et également prier pour, promouvoir cette santé. Nous avons une large responsabilité, ne serait-ce qu'en évitant les multiples addictions. Je ne vais pas me lancer dans un cours à ce propos, mais enfin, on pense toujours au même de l'alcool, en passant par le tabac, certaines musiques, comportements alimentaires et autres. Donc il y a cet aspect, quelle hygiène de vie préside à ma vie quotidienne ? Fais-je du sport ? Ai-je une activité physique ? Ai-je un mode de vie qui soit finalement respectueux de la création ? C'est au fond une écologie saine vis-à-vis de moi-même. Enfin, il y a la prière pour les malades. Philippe Aristoy a magnifiquement parlé de l'onction des malades, sacrement de guérison auquel il faut préparer les patients. Je n'y reviens pas, tout a été dit. Et c'est très important de prier pour eux. Cette intercession est essentielle. Vis-à-vis des patients, on a deux priorités capitales. L'écoute, dont a très bien parlé Catherine Denoroy, l'écoute qui peut s'orienter, déboucher sur des aveux, des confidences absolument bouleversantes, notamment cette écoute qui peut aider à cheminer vers un pardon à donner, surtout en fin de vie. Nous avons des pardons à demander, nous avons des pardons à recevoir. Et également, nous avons à prier pour les patients, cette intercession. De même que le ciel intercède pour nous, que nos anges gardiens intercèdent pour nous, nous avons à prier pour les malades. Prier pour les malades. Et j'étais à Rome au moment de Noël et à l'audience du pape François qui a interrompu la lecture de son texte pour demander de prier pour son prédécesseur, le pape Benoît XVI, qui était gravement malade. Donc, prier pour les malades. Et avoir toujours bien en tête cette phrase toute simple de Matthieu au chapitre 25, « J'étais malade et vous m'avez visité. Quand avons-nous vu être malade ? À chaque fois que vous êtes venu près d'un de ces petits qui sont proches de vous. » Chacun d'entre nous connaît quelqu'un, souvent très près de chez lui, qui est malade, isolé et qui nous attend.
Pour ce dimanche de la santé, chaque année, il y a un thème qui est retenu. Cette année, comme souvent d'ailleurs, c'est un thème qui est directement issu de la parole de Dieu du dimanche.
Oui, donc cette année, comme il est célébré le 12 février, le thème c'est « Moi, je vous dis ». Voilà. « Moi, je vous dis », donc c'est tiré de l'évangile de Matthieu, en 5, 17 à 37. Voilà. « Moi, je vous dis », invitation à que Jésus fait à ses auditeurs, d'aller plus loin que ce qui était en cours, c'est-à-dire plus loin que la loi qui régissait à l'époque les relations entre les différentes personnes et les croyants, et le Christ qui dit d'aller beaucoup plus loin et de manifester encore plus d'amour, plus de miséricorde. Voilà. Et du même coup, c'est ça qui est déployé à travers ce livret qui est fait pour aider les communautés chrétiennes à se saisir justement de ce thème du dimanche de la santé, avec des témoignages et avec aussi tout ce regard pastoral qu'il nous faut avoir, et à la fois par rapport à les personnes que l'on rencontre et par rapport, comme le disait aussi Marc Renaud, eh bien, tout le monde médical. Et c'est vrai que c'est un petit peu, là, je dirais, notre point faible. Voilà. On insiste beaucoup sur la personne malade, âgée, qu'on accompagne, personne handicapée aussi, parce qu'il y a la pastorale des personnes handicapées aussi dans la pastorale de la santé. Mais on oublie bien souvent de rendre grâce aussi et de soutenir et d'accompagner le questionnement de ce monde de la santé et des aides-soignants, des infirmières, des réanimateurs. Moi qui vais en réanimation, Dieu sait s'il y a des questions qui se posent lorsqu'on est dans ces secteurs-là, quoi.
Le dimanche de la santé, donc si je résume, c'est prier pour les malades, pour les soignants, proposer, si c'est possible, dans les paroisses, le sacrement de l'onction des malades célébré communautairement. Qu'est-ce qu'il y a d'autres pistes pour bien vivre un dimanche de la santé ?
Deux mots à retenir, écouter les malades, écouter les soignants, comme l'a dit Philippe, et aimer. C'est un travail de service et d'amour. Les patients ont besoin d'être aimés. En étant aimés, ils retrouvent leur dignité humaine qui est quelquefois bafouée par la maladie. Tu comptes à mes yeux, tu es important à mes yeux. Les aimer.
Je rajouterai par la maladie ou le handicap.
Ou le handicap.
Parce que ce sont aussi toutes les personnes fragiles en situation de handicap. Alors, j'en profite du coup pour dire que... parce que bien souvent, lorsqu'on aborde ces questions-là, c'est un peu lourd, quoi. Eh bien, nous allons vivre quand même, juste après ce dimanche de la santé et pendant le temps de carême, une magnifique fête, le 10e anniversaire, finalement, de la création de la maison de la pastorale des personnes handicapées à Bayonne, puisque c'était à Anglette il y a 10 ans, en janvier donc 2013, était inaugurée par Mgr Hayé donc, à Aritzag, cette maison de la PPH. À l'époque, j'étais curé de Mauléon, et donc nous allons faire une belle fête, une grande fête de la pastorale des personnes handicapées pour les 10 ans de son existence à Mauléon, le 5 mars prochain. Et ce sera une fête de la joie, parce que c'est ça qu'il faut retenir aussi, hein. Écouter, aimer et être joyeux. Je crois que le pape François aussi, dans ses différents messages, souvent, il s'inspire aussi de ce qu'il disait aussi dans Amoris Laetitia, voilà, et où il dit cette miséricorde, cet amour, c'est la joie aussi de l'évangile qui est là, et qu'on a à célébrer, que l'on a à dire, voilà, même dans un milieu, dans un monde où eh bien, ce sont des peurs, ce sont des angoisses qui sont là. C'est normal. Si on a peur, si on pleure, c'est qu'on aime les gens. Voilà. Et c'est qu'on n'est pas indifférent à tout cela. Et que la souffrance nous fait souffrir. Voilà. Elle n'a pas de sens en elle-même, la souffrance. Et justement, nous sommes là pour accompagner et puis pour s'entraider. Comme le disait Catherine Denoureau au tout début de cette intervention, ben, ce sont des personnes qui sont là, ce sont les aidants. On les oublie bien souvent, ces aidants. On en parle de plus en plus maintenant, hein, mais les aidants, eh bien, je pense que tout le monde est aidant de quelqu'un et dans toute famille, il y a des aidants.
Je crois que vous voulez nous partager quelques lignes qui sont présentes dans ce livret du Dimanche de la Santé, justement à propos de cet évangile. Et moi, je vous dis...
Voilà. Et moi, je vous dis, alors les équipes qui sont en train de préparer tout cela en paroisse vont pouvoir le décliner chacun à sa façon et en fonction de la réalité locale du lieu où ils vont vivre cela. Mais j'ai trouvé cela très intéressant dans ce regard pastoral. Et moi, je vous dis d'affirmer, souvent silencieusement, que la mort n'aura pas le dernier mot, malgré toutes les épreuves de la vie. Et moi, je vous dis de ne pas confondre la santé spirituelle avec la santé morale, la santé psychologique et la santé physique. Et moi, je vous dis de ne pas accuser la personne qui souffre après un choix éthique condamnable ou difficile à entendre, en vous disant presque malgré vous, dans le secret de votre cœur, qu'elle récolte ce qu'elle a semé, qu'elle aurait dû faire un autre choix. Non, moi, je vous dis, vous ne savez pas ce qu'elle crie au plus secret de son cœur et vous ne connaissez pas tous les chemins de la miséricorde. Et moi, je vous dis de chercher toujours tel d'infatigables sourciers, ce qui demeure vivant, en aimant en chaque personne. Je vous dis de ne pas déserter votre mission de consolation, y compris auprès des personnes confrontées au tragique des choix. Je vous dis de ne pas vous raccrocher à la loi morale comme des comptables jaloux de la grâce. Moi, je vous dis d'espérer les cieux et de ne pas craindre de parler de l'ordinaire de la terre, du plissement des draps et de la dureté de l'oreiller, de la pluie qui n'en finit pas et du soleil qui viendra peut-être, de l'eau trop fade et des saveurs espérées et de bien d'autres choses encore, car le ressuscité a tout enveloppé de sa présence.
C'est ce dimanche 12 février qu'est célébré le Dimanche de la Santé. Alors ce Dimanche de la Santé, en fait, il a plusieurs ramifications, j'allais dire, tout au long de l'année, puisque vous proposez chaque année, je crois...
Une journée de pastorale de la santé, la prochaine aura lieu, on en parlera en son temps, très certainement au mois de novembre 2023.
Voilà, donc là vous invitez un peu toutes les personnes qui s'impliquent dans les services évangéliques des malades, dans les aumôneries.
Dans les aumôneries, en l'occurrence le prochain invité sera le père Onfray qui a été directeur de la pastorale de la santé. Nous en parlerons en son temps.
Donc il y aura la fête de la PPH, le 10e anniversaire de la pastorale des personnes handicapées le dimanche 5 mars à Mauléon, en Soule.
Tout à fait.
Et puis, il y a aussi le rendez-vous incontournable chaque année, c'est le pèlerinage de
Cézanne à Lourdes. De l'hospitalité basco-béarnaise à Lourdes au mois de septembre.
Au mois de septembre. Et entre tout cela, il y aura aussi les Journées mondiales de la jeunesse, voilà, où une délégation de 11 jeunes porteurs de handicap avec leurs hospitaliers, leurs accompagnateurs, se rendront, et je les accompagnerai, à Lisbonne.
Un grand merci à Dr Marc Renoux, un grand merci à Abbé Philippe Aristoy. Catherine Denoy, pour terminer, j'ai envie de vous demander de nous partager la prière du Dimanche de la Santé. On va finir l'émission avec cette prière.
Seigneur, tu veux pour moi la vie, toujours plus de vie avec toi. Mais ma vie, à certaines heures, est tellement complexe. Que me dis-tu ? À quoi, Seigneur, m'invites-tu chaque jour et chaque heure ? Peut-être simplement à garder vivante, quoi qu'il arrive, la lumière de ton amour. Cette prière est de Chantal Lavoyotte.
Merci beaucoup, Catherine Denoy. Merci, Dr Marc Renoux. Merci à Philippe Aristoy. Je remercie tous ceux qui nous écoutent, et notamment les personnes malades, âgées, isolées. Je sais qu'elles sont nombreuses à nous écouter sur Radio La Pourdie. Donc je les salue bien fraternellement. Puis dernière information, le samedi 11 février à partir de 10h, vous pourrez suivre la messe en direct des sanctuaires de Lourdes, la messe présidée par l'évêque de Tarbes-Lourdes pour la 31e journée mondiale du malade dans la fête de Notre-Dame de Lourdes, donc le samedi 11 février à 10h sur notre antenne. Merci.